Chapitre 27. Les grenouilles étaient parties se cacher dans leur mare. Les salamandres dormaient dans leur trou brun. L'étang reflétait le demi-visage de la lune, les têtes d'épingles des étoiles, et autour, penchés tout près, les arbres tremblotants. Je m'agenouillai sur l'herbe épaisse de la rive. Devant moi se trouvait le vieux bol en bronze que j'utilisais pour ma magie depuis le début. Les fleurs étaient à côté de moi, dans leur pâle enveloppe de racines. Une tige après l'autre, je les coupais, pressais leurs gouttes de sève dégoulinantes. Le fond du bol s'assombrit. Lui aussi commençait à refléter la lune. Je ne pressais pas la dernière fleur, mais la plantai là, sur la rive, où le soleil venait tous les matins. Peut-être y pousserait-elle. Je sentais la peur en moi, luisante comme de l'eau. Ces fleurs avaient transformé Scylla en monstre, alors qu'elle n'avait rien fait d'autre que se moquer. Glaucos en était lui aussi devenu un à sa manière, et toute sa bonté avait été chassée par la divinité. Je me souvins de mon ancienne terreur au moment de la naissance de Télégonos. Quelle est cette créature tapie en moi? Mon imagination fabriquait des horreurs. J'allais cracher des têtes visqueuses et des dents jaunes, me précipiter dans mon repli de terrain favori pour tailler Télémaque en pièces. Mais peut-être n'en serait-il pas ainsi, me raisonnais-je. Peut-être que tout ce que j'avais espéré se réaliserait, et que Télémaque et moi irions vraiment en Égypte, ainsi que dans tous ces autres lieux. Nous traverserions et retraverserions les mers, vivant de ma sorcellerie et de ses talents de charpentier, et quand nous reviendrions en ville la seconde fois, les gens sortiraient de chez eux pour nous accueillir. Ils rafistoleraient leurs navires, je jetterais des sorts contre les mouches piqueuses et les fièvres, et nous prendrions plaisir à cet acte simple qui consiste à réparer le monde. Cette vision s'épanouit, aussi nette que l'herbe fraîche sous mes pieds, que le ciel noir au-dessus de ma tête. Nous irions voir la porte des lions à Mycène, où régnaient les héritiers d'Agamemnon, et les murs de Troie aux pierres refroidies par les vents des sommets verglacés du mont Ida. Nous monterions à dos d'éléphants, marcherions la nuit dans le désert, sous les yeux de dieux qui n'auraient jamais entendu parler des titans ni des olympiens, et qui ne prêteraient pas plus attention à nous qu'aux scarabées des sables avançant péniblement à nos pieds. Ils me diraient vouloir des enfants. Je répondrais « Tu ne sais pas ce que tu me demandes. » Et lui, « Cette fois-ci, tu ne seras pas seul. » Nous avons une fille, puis une autre. Pénélope est à mes côtés, près du lit où j'accouche. La douleur est là, mais elle passe. Nous vivons sur l'île quand les enfants sont petites et y retournons souvent ensuite. Pénélope tisse et jette des sorts au milieu de ses nymphes qui glissent autour d'elle. Ses cheveux ont beau devenir de plus en plus gris, elle ne semble jamais se fatiguer. Mais parfois je vois son regard se tourner vers l'horizon où l'attendent la maison des morts et ses âmes. Ces filles dont je rêve la vie sont à la fois différentes de Télégonos et différentes l'une de l'autre. L'une poursuit les lions en leur tournant autour, alors que l'autre, qui reste assise dans un coin, observe tout et n'oublie rien. Nous sommes fous d'amour pour elles, restant debout au-dessus de leurs visages endormis, murmurant à propos de ce que l'une a dit ou fait ce jour-là. Nous les emmenons rencontrer Télégonos, qui trône au milieu de ses vergers dorés. Il bondit de sa banquette pour nous étreindre et nous présente au commandant de sa garde, un grand jeune homme aux cheveux sombres qui reste toujours à ses côtés. Il n'est pas encore marié, dit qu'il ne le sera peut-être jamais. Je souris à l'idée de la frustration d'Athéna. Il est si poli et en même temps aussi solide et inébranlable que les murs de sa propre cité. Je ne m'inquiète pas pour lui. J'ai vieilli. Lorsque je me regarde dans mon miroir en bronze poli, il y a des rides sur mon visage. J'ai épaissi aussi, et ma peau a commencé à perdre sa fermeté. Quand je me coupe en travaillant à mes herbes, les cicatrices restent. Parfois, j'aime ça. Parfois, je suis impuissante et insatisfaite. Cependant, je ne souhaite pas revenir en arrière. Bien sûr que ma chair aspire à retourner vers la terre. C'est sa place. Un jour, Hermès me guidera le long des corridors des morts. Nous nous reconnaîtrons à peine, car j'aurai les cheveux blancs, alors que lui sera enveloppé dans son mystère d'accompagnateur des âmes, le seul moment où il est solennel. Je crois que j'apprécierai ce spectacle. Je sais à quel point j'ai de la chance, une chance qui rend bête, indécente, qui tourne la tête. Je me réveille souvent la nuit, terrifiée de la précarité de ma vie, de ma respiration qui ne tient qu'à un fil. À côté de moi, le pouls de mon mari bat sur sa gorge. Dans leur lit, les peaux de mes enfants marquent à la moindre égratignure. Une brise pourrait les emporter, et le monde est plein de menaces bien pires que des brises. Maladies et désastres, monstres et douleurs qui possèdent mille variantes. Je n'oublie jamais non plus celle qui est suspendue au-dessus de nous. Mon père et les siens, aussi éclatants et tranchants que des épées pointées sur notre chair vulnérable. Ma respiration devient laborieuse. Comment puis-je continuer sous un tel fardeau de catastrophe? Dans ces cas-là, je me lève et je vais m'occuper de mes herbes. Je crée quelque chose, je transforme quelque chose. Ma sorcellerie est toujours puissante, plus puissante que jamais même. Cela aussi, c'est une chance. Combien disposent, comme moi, d'un tel pouvoir et de tant de loisirs et de défenses? Au bout d'un moment, Télémaque sort du lit pour venir me chercher. Il reste assis avec moi dans la pénombre qui embaume la verdure en me tenant la main. Nos visages sont tous deux ridés à présent, marqués par les années. « Circé, » me rassure-t-il, « tout va bien se passer. » Ce ne sont pas les mots d'un oracle ni d'un prophète, ce sont ceux que l'on dirait à un enfant. Je l'ai entendu les prononcer pour nos filles, quand il les berçait pour qu'elles se rendorment après un cauchemar, quand il pansait leurs petites coupures, apaisait leurs douleurs. Sous mes doigts, sa peau est aussi familière que la mienne. J'écoute sa respiration chaude dans l'air nocturne et je me sens bizarrement réconfortée. Il ne veut pas dire que cela ne fait pas mal. Il ne veut pas dire que nous n'avons pas peur. Juste ceci, que nous sommes là. C'est ce que cela signifie de nager dans la marée, de fouler la terre et de la sentir toucher vos pieds. C'est ce que cela signifie d'être en vie. Au-dessus de nos têtes, les constellations plongent et tournoient. Ma divinité brille en moi comme les derniers rayons du soleil avant qu'ils ne sombrent dans la mer. Jadis, je pensais que les dieux étaient le contraire de la mort. Mais je vois maintenant qu'ils sont plus morts que tout le reste, car ils sont immuables et ne peuvent rien tenir dans leurs mains. Toute ma vie, je suis allée de l'avant, et à présent, je suis ici. Si j'ai une voix de mortel, laissez-moi aussi avoir le reste. Je lève à mes lèvres la coupe remplie à ras bord, et je bois.